VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Ebola en République démocratique du Congo. Une étude publiée aujourd'hui dans la revue de Lancet estime que les rumeurs de et la défiance envers les personnels de santé ont sans doute retardé la lutte contre l'épidémie dans ce pays. Seulement un tiers des quelques 1000 personnes interrogées à Beni et à Butembo ont dit faire confiance aux autorités locales pour les aider pendant l'épidémie. Plus d'un quart ne croit même pas l'existence d'Ebola et 36% pensent que la maladie a été créée pour déstabiliser le pays. L'épidémie en cours est la deuxième la plus meurtrière après celle qui a frappé l'Afrique de l'Ouest en 2014-2016 et qui a fait quelque 11 300 morts. Washington et Kinshasa sur le point de sceller de nouvelles relations d'affaires avec la visite la semaine prochaine aux États-Unis du président Félix Tshisekedi. Une relation privilégiée en termes d'investissement américain. C'est possible, de l'avis en tout cas de l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, Mike Hammer, précise toutefois qu'il faut améliorer le climat des affaires. On l'écoute.
C'est nécessaire d'avoir un peu de familiarisation aux États-Unis, de la possibilité d'émertissement aux États-Unis. La visite du président Félix Tshisekedi la prochaine semaine sera une grande opportunité pour promouvoir les opportunités au Congo, mais c'est nécessaire de combattre contre la corruption, parce que s'il y a de corruption, c'est très difficile d'avoir d'émertissement américain. Mais mon travail est de promouvoir les opportunités, travailler avec le gouvernement congolais pour voir qu'est-ce que c'est possible et être préparé à aider les investisseurs américains à venir s'établir ici au pays. Nous sommes prêts à travailler avec le nouveau président, Félix Tshisekedi. Son programme nous intéresse beaucoup parce qu'il a dit que ses priorités sont de combattre contre la corruption, avoir le respect pour les droits de l'homme, de fortaliser la justice, d'avoir d'investissement américain. Nous sommes prêts à soutenir ces projets. C'est un moment historique pour la RDC.
Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis en RDC, au micro de nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. La lutte contre la corruption, on en parle aussi au Congo-Brazzaville voisin. Les populations attendent depuis 6 mois la mise en place de la nouvelle haute autorité de lutte contre la corruption. Le phénomène étant devenu une vraie gangrène dans ce pays, nous dit notre correspondant Arsène Séverin.
C'est depuis septembre 2018 que les Congolais attendent la haute autorité de lutte contre la corruption, le nouvel organe qui va traquer les corrupteurs et les corrompus. Selon la nouvelle loi, la haute autorité de lutte contre la corruption est dotée d'importants pouvoirs d'investigation et de saisine à la justice et sera dirigée par une personnalité indépendante. Analyse des fortunes, Megzan Animba, président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, une ONG locale.
J'ai pas les moyens d'expliquer ce retard, mais on peut imaginer que est-ce que les gens sont prêts à aller déjà vers cet outil de lutte contre la corruption qui va finalement leur échapper. Les gens continuent à réfléchir de comment on peut quand même conserver la main sur cet outil. Les gens prendront le temps d'évaluer le risque.
Pour l'économiste Augustin Benazo, la corruption fait du mal à l'économie nationale.
L'effectivité de la dépense au Congo n'est que de 30%. Voilà, c'est un problème. Voilà. Donc ça montre qu'il y a des faiblesses. Ça a un impact sur l'évolution des politiques publiques au niveau de notre pays.
L'opposition ne croit pas à la volonté du gouvernement d'aller en attaque contre la corruption. Elle estime que les dignitaires du pouvoir devraient être eux-mêmes la cible de la haute autorité de lutte contre la corruption. Professeur Charles Zachary Boao, porte-parole de la Fédération de l'opposition congolaise.
Nous n'y croyons aucunement. La preuve, la Commission nationale de lutte contre la corruption s'est mise debout avec un certain nombre de dossiers rendus publics. Au terme de ces dénonciations du système lui-même, cette commission a été dissoute au profit d'une hypothétique haute autorité en la matière et le pouvoir actuel. Dans les grands tenants sont impliqués dans tous ces dossiers, ne pourra jamais être jugé parti. Il n'y a rien de sérieux.
L'ancien ministre Alain Akwala, qui est par ailleurs membre du PCT, le parti présidentiel, affirme qu'il n'est plus question de majorité ou d'opposition, mais d'éradiquer une gangrène qui ronge le pays depuis bien longtemps.
C'est difficile de faire la chasse à tout le monde. Nous savons tous dans quel système nous avons baigné. Et cette culture de la corruption est liée au fait que, depuis toujours, le Congolais associe le fait d'acquérir une espèce de progression économique par un poste dans l'administration, un poste obtenu grâce à la politique. Nous n'avons pas au Congo des réussites liées au fait que nous avons des grands capitaines d'industrie. On n'est pas là à se jeter la pierre sur opposition, majorité. C'est là que nous devons être capables de faire preuve, si vous voulez, de transcendance politique. Parce que cette culture ne date pas d'il y a maintenant. Donc, il va falloir extirper ce mal.
Après l'adoption au Parlement de la nouvelle loi sur la corruption, tous les acteurs attendent maintenant sa promulgation par le président de la République. Arsène Séverin, Brazzaville, VO Afrique.
Au Burundi, les trois jeunes filles âgées de 14, 15 et 17 ans sont sorties de la prison pour mineurs à Ngozi, au nord du pays. Les parents saluent le geste de la ministre burundaise de la Justice, mais demandent que ces élèves retournent à l'école. Leur détention pour avoir gribouillé la photo du président burundais avait provoqué un tollé. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Après 6 jours de détention dans les provinces de Kirundo, Ngozi, au nord et nord-est du Burundi, Mélise Consolat et Micheline sont faits libres de la prison pour mineurs de Ngozi. Ils ont directement été conduits dans la province. Le procureur près de la cour d'appel de Ngozi a indiqué que les investigations judiciaires continuent, mais l'avocat des trois écolières, Prosper Yanzira, demande leur acquittement car aucun indice sérieux de culpabilité n'est perceptible. Il indique que ces livres passaient de main en main et qu'il est difficile de pointer du doigt les élèves qui auraient gribouillé les photos du président Pierre Nkurunziza. Parents et élèves n'ont pas caché leur joie lorsque le procureur près la cour d'appel de Ngozi, province natale du président burundais, a libéré provisoirement les trois écolières. Les associations pour la défense des droits des enfants demandent que ces enfants retournent immédiatement poursuivre leur cursus scolaire. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Mauritanie, Abderrahman Hould Wedadi et Cheikh Hould Djidou, deux blogueurs proches de l'opposition, ont été inculpés hier pour dénonciation calomnieuse envers le président Mohamed Ould Abdelaziz. Selon leur avocat, les deux blogueurs ont été écroués pour avoir publié ces derniers mois sur Facebook des informations faisant état du gel présumé d'avoir de 2 milliards de dollars à Dubaï qui appartiendrait au président mauritanien. Ce dernier avait dit le 5 mars qu'il s'agissait, je cite, d'une rumeur qui finira par s'estomper. Fin des citations. Le gouvernement ivoirien a adopté mercredi 4 projets de loi visant notamment à renforcer les droits de la femme, souvent lésés dans la succession en cas de décès du mari, a annoncé hier le porte-parole du gouvernement Sidi Tiemoko Touré. Parmi les innovations introduites, le rang successoral du conjoint survivant. Le conjoint survivant bénéficie désormais d'une part non négligeable des biens de son conjoint décédé. Ces nouvelles dispositions, quoique bénéficiant indistinctement à l'homme et à la femme, doivent mettre fin à des pratiques traditionnelles dans de nombreux cas défavorables à la femme.
Nos infos sur voafrique.com.
Les États-Unis, isolés, défendent au Conseil de sécurité de l'ONU leur décision de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Washington entend aller plus loin sur ce dossier. Idrissa Seydoudia.
L'administration Trump va mettre à jour les cartes du gouvernement américain pour refléter, selon un porte-parole du Département d'État, la décision du président Donald Trump de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Et hier, au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont défendu cette décision, une position unanimement condamnée par leurs 14 partenaires de l'ONU lors d'une réunion d'urgence à la demande de la Syrie. Le Golan a été conquis en 1967 par Israël lors de la guerre israélo-arabe et annexé en 1981.
Merci Idrissa. La défense syrienne a repoussé mercredi soir une attaque aérienne israélienne près d'Alep dans le nord, a annoncé l'agence officielle de presse syrienne Sana'a. Les frappes israéliennes ont touché des entrepôts de munitions appartenant aux forces iraniennes et à des groupes qui leur sont alliés opérant en soutien au régime syrien, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, qui a fait état de 7 personnes tuées, des gardes des entrepôts. Il ne serait ni syrien ni iranien, selon la même source. Et pour terminer, le Pakistan a affirmé jeudi n'avoir trouvé aucun lien entre des rebelles islamistes récemment interpellés sur son territoire et l'attentat commis en février au Cachemire indien qui avait conduit les deux pays au seuil de la guerre. L'Inde accuse de longue date le Pakistan de soutenir des groupes rebelles actifs au Cachemire indien. Islamabad a démenti toute implication dans l'attentat de Pulwama. Jean-Roger Bion à ce micro. Vous retrouverez Henri Francisque dans 50 minutes environ pour un nouveau journal sur vos stations préférées. Nous sommes le mardi, du moins le jeudi 28 septembre 2019, 28 mars 2019. Autant pour moi. Allez, bon après-midi à tous et merci encore pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.